Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com.
J'ai décidé de vous proposer une pause éducative sur le thème Montessori à la maison. En effet, il y a énormément de personnes qui m'écrivent pour me dire « Oh, je regrette, les écoles Montessori, c'est cher, je ne peux pas inscrire mon enfant, donc il ne peut pas bénéficier de cette pédagogie, le matériel Montessori, c'est cher, etc. » Donc je pense qu'il est important de faire une petite, un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que la pédagogie Montessori et comment on peut la mettre en place à la maison. Car en fait, avant tout, Montessori, c'est une philosophie. Donc, vous pouvez faire énormément à la maison, tout à fait dans la lignée de la pédagogie Montessori. D'abord, Montessori, il faut savoir que ça répond à des grands principes. D'abord, se dire que chaque enfant est différent et donc que l'on doit les respecter avec leurs différences. C'est-à-dire ne pas attendre d'eux certaines choses, mais savoir les prendre là où ils sont, comme ils sont. Un autre grand principe de la pédagogie Montessori, ça va être le développement de l'autonomie et de la confiance en soi. Aussi que l'enfant est au centre de toutes nos préoccupations. Il faut savoir aussi que l'enfant se construit grâce à ses neurones miroirs lorsqu'il est petit. Et par conséquent, on doit être un adulte modélisant. Et ça, on doit toujours l'avoir en tête aussi. J'aimais beaucoup ce que disait Maria Montessori qui expliquait qu'en tant qu'adulte qui s'occupait d'enfants, il fallait se débarrasser de deux émotions qu'elle considérait, elle, comme négatives vis-à-vis de l'enfant. C'était l'orgueil et la colère. L'orgueil, parce que ça nous fait dire « je sais mieux que toi » et du coup, on va avoir moins confiance en l'enfant, moins confiance en ses ressentis, moins confiance en ses capacités, alors que c'est tout le contraire qu'il faut avoir. Et la colère, parce que la colère nous fait dire des phrases, des mots qui vont blesser l'enfant et les mots vont les blesser profondément. Donc il faut absolument essayer face à l'enfant de se débarrasser de ces deux émotions. Une chose très importante donc, c'est d'adopter à la maison la philosophie Montessori. Donc avant tout, quand on respecte déjà ces principes-là, une chose qui va compter beaucoup, ce sera la posture de l'adulte. En fait, au-delà du matériel, au-delà du mobilier, ce qui est le plus important, c'est la posture de l'adulte. Et ça, autant à la maison, je le rappelle aussi pour les enseignants, qu'à l'école. La posture est fondamentale, c'est la base des bases. Donc comme je disais, il faut faire un gros travail sur soi pour se débarrasser de l'orgueil et de la colère, mais il suit aussi en tant que parent et en tant qu'enseignant, mais surtout en tant que parent, il va falloir apprendre à lâcher prise. Il va falloir apprendre à lâcher prise car l'enfant a besoin de faire énormément de choses par lui-même. Donc, il va falloir donner sa confiance à l'enfant et se dire qu'il peut y arriver, justement. Il va falloir respecter son rythme et ne surtout pas dire il doit faire ceci parce qu'il a cet âge-là, il doit être capable de cela. Donc ça, je le répète toujours, ne regardez pas trop les âges, mais observez votre enfant. Observez, c'est très important. Parce que souvent, on se dit « Oh, il est en retard, il ne marche pas. Oh, il est en retard, il ne parle pas. » Mais dites-vous bien qu'un enfant ne peut pas tout travailler en même temps. Ils font l'un ou ils font l'autre. Donc, un enfant va être peut-être plus avancé d'un niveau moteur, mais plus tard en langage, ou inversement. Donc, surtout, observez l'enfant et faites-lui confiance. Il va y arriver. Il choisit. D'abord, il travaille sa motricité, peut-être, et il parlera plus tard. Mais faites-lui confiance le plus possible. On va aussi les respecter et préparer un environnement en adéquation avec cet enfant et ne pas forcément préparer des activités, encore une fois, en fonction de son âge, mais en fonction de qui il est. ne pas dire, comme je vous disais, mon enfant a tel âge, il doit faire telle chose, donc je lui prépare telle chose. Je dis vraiment parce que tout le temps, quand je fais des posts Instagram, les gens disent « Ah, mais il a quel âge ? Mais moi, mon enfant, il a fait ça à tel âge, moi, mon enfant, il ne fait pas ça. » Et là, l'enfant sent qu'on lui met une pression ou alors qu'on doute ou qu'on est inquiet. Et du coup, il va perdre confiance en lui. Donc, c'est très important. L'important, donc, ce que je disais, c'est d'être beaucoup, beaucoup dans l'observation. Mais une observation neutre, c'est-à-dire une observation où on n'a pas des idées préconçues de ce que l'on souhaite lui voir faire. Et ça, c'est très difficile. Hein. Autant en tant que parent, ce n'est pas facile du tout. Donc, il faut oublier ce que l'on aimerait voir, hein. Par exemple, il faut s'oublier soi. Il ne faut pas avoir envie d'avoir devant soi un petit être qui nous correspond. C'est-à-dire, j'ai déjà entendu des gens dire « Ah ben moi, mon enfant, il a un an, il adore les musées. » Il adore les musées, non, c'est parce que toi, tu adores les musées, tu as envie de l'y emmener. Ou « Mon enfant, il a 18 mois, il adore voyager. » Mais non, ça, c'est une vision de l'adulte. C'est l'adulte qui transpose sur son enfant ce qu'il aime. Donc, faire attention, justement, à la façon dont on le regarde. C'est tout un entraînement, juste de voir et ensuite de préparer en fonction de ses besoins. Il va falloir aussi lâcher prise sur quelque chose qui est très importante, c'est le temps. Pour accompagner son enfant, selon la pédagogie Montessori, il va falloir leur donner du temps et du temps de qualité. Quand on dit qu'un des premiers objectifs de la pédagogie Montessori, c'est de développer l'autonomie, ça ne signifie pas laisser l'enfant se débrouiller tout seul. Ça, c'est valable pour les tout-petits, mais aussi c'est valable pour les enfants plus grands. Prendre le temps de montrer quand ils sont petits. Le faire lentement, parce que l'enfant, il a besoin d'absorber vos gestes. Donc, il a besoin que vous le fassiez lentement et que vous le fassiez plusieurs fois, parce qu'il apprend grâce à ça. Par exemple, pour des parents qui décident, mon enfant en collège, ça je l'ai entendu souvent, il doit être autonome. Non, c'est pas possible, cette autonomie, pareillement. Elle se prépare, elle s'accompagne. Par exemple, au début, on va l'aider à préparer son cartable la veille avec l'emploi du temps du lendemain. Par exemple, on va le faire ensemble, préparer des plannings pour les devoirs en fonction de chaque matière, chaque jour, et aussi en fonction de ses activités extrascolaires pour qu'il puisse s'organiser. Par exemple, quand il a appris tout seul une leçon, on va le faire réciter gentiment sans lui mettre la pression pour qu'il se rende compte s'il apprend bien ou s'il apprend pas bien. On va lui montrer, par exemple, pour faire des fiches, on va les faire ensemble. C'est comme ça qu'on va comprendre s'il est plus visuel, s'il est plus auditif. Et il faut accompagner cette autonomie. Par exemple, s'il prépare un contrôle, on va l'aider, on ne va pas attendre la fin du premier trimestre pour recevoir le bulletin et se dire « Waouh, il a pas très bien réussi » ou « Waouh, il a des mauvaises notes ». Parce que là, il aura déjà perdu pas mal confiance en lui. Avec un plus petit, par exemple, qui commence à s'habiller, il va falloir organiser différemment l'emploi du temps parce qu'on sait que ça va prendre plus de temps. Et si on veut qu'il réussisse, il va falloir ne pas le presser, ne pas le stresser, ne pas lui dire « Ah, tu vas être en retard à l'école, dépêche-toi, il faut qu'on monte à la voiture, moi je vais être en retard au travail ». Pareil, quand l'enfant doit débarrasser, par exemple, tout seul sa table le soir, il va pas falloir lui dire « Dépêche-toi parce que c'est l'heure d'aller te brosser les dents puis se coucher ». Il va falloir aménager l'emploi du temps, prévoir des plages horaires plus grandes le matin, le soir, pour lui laisser ce temps. Donc, on va adapter le temps qu'on va donner à l'enfant et aussi le temps que nous allons lui offrir. Offrir aussi un temps de qualité, c'est-à-dire un temps où on est totalement disponible, c'est-à-dire pas avec le téléphone, pas avec un ordinateur, pas avec un rendez-vous dans 5 minutes, pas avec du monde autour qui discute, c'est vraiment du temps qu'on va lui donner. Parfois, il faut peut-être mieux en donner moins, mais donner un temps de qualité. Par exemple, quand on va lui présenter une activité, il faudra vraiment avoir l'esprit libre, avoir vraiment envie de présenter cette activité et avoir le temps de le faire lentement, d'observer comment il le fait, de lui permettre de recommencer, de se tromper, etc. Également, quand on va faire une balade, il y a des enfants, ils n'aiment pas, en général, les enfants n'aiment pas marcher de manière continue et on marche au pas de course pour faire nos 10 000 pas. Non, eux, ils aiment avancer, s'arrêter, se poser, observer. Eh bien, il faudra avoir le temps de l'accompagner de cette façon-là, pas dans notre façon d'adulte de le faire. Pareil, on pensera avant de l'emmener en promenade, à l'habiller de sorte qu'il puisse être libre pendant cette promenade, libre de s'asseoir par terre, libre de marcher dans les flaques, libre de jouer avec la terre, de se salir, etc. Ça, c'est aussi très important. À la maison, autre chose qui est très important, c'est sur cette fameuse notion de la liberté si chère à la pédagogie Montessori, mais c'est une liberté dans un cadre. Et ça, j'y tiens beaucoup. Nous, dans nos classes, nous posons tous un cadre. Et je pense qu'il est très important que les parents, que les adultes qui s'occupent des enfants posent ce cadre bienveillant dans lequel l'enfant va pouvoir évoluer avec cette fameuse liberté. Alors un cadre, ça signifie des limites. Et les limites, c'est vous, adultes, qui allez les poser selon ce que vous pouvez accepter ou non. Et c'est pour ça que c'est très important et qu'on ne peut pas vous dire le cadre, ça doit être ci, on doit interdire ça, on doit permettre ça. Non, c'est par rapport à soi-même. Jusqu'où pouvez-vous accepter des choses? Qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Par exemple, il y a des enfants, je ne sais pas, les parents, ça ne les dérange pas que l'enfant saute sur les canapés, un autre non. Bon voilà, c'est chacun ses limites. Pour ça, j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, je vous conseille un interview du podcast de Arnaud Rioux le 29 septembre 22, où justement il explique comment clarifier nos propres limites avec les enfants. Parce qu'en fait, ce sont nos limites à nous que l'on va poser pour ce cadre justement. Donc, il doit être vraiment défini en premier lieu, en fonction bien sûr de la sécurité de la maison, de la sécurité de l'enfant, et ensuite en fonction de nos limites d'adultes. Ensuite, ce cadre va permettre d'instaurer des routines qui sont hyper importantes pour le bien-être de l'enfant. De la même façon, je ne vais pas vous dire la routine, c'est qu'on doit commencer à 8 heures, je ne sais pas, par prendre le petit déjeuner ensemble, ensuite on va se brosser les dents. Non, la routine, c'est vous qui allez la poser en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre vie, en fonction, pareil, de l'organisation de vous, de votre propre journée. Mais cette routine, il va falloir y réfléchir en tant qu'adulte ensemble. Si vous êtes des parents ensemble, il faut y réfléchir ensemble pour que ça convienne aux deux, pour maintenir justement cette routine et que l'enfant puisse se construire de cette façon-là, sans stress, parce qu'en fait, il sait ce qui va se passer après. Quand ils sont petits, ils n'ont pas de notion du temps, donc c'est très stressant de se dire wow, « qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je vais faire après ?» Eh bien là, non, l'enfant, il sait qu'il va se passer ceci, cela, après ce sera ça, après ce sera ça. Et cette routine, c'est pour ça qu'il faut la poser, qu'il faut vraiment se poser ensemble pour la définir et ensuite ne pas trop la changer pour que l'enfant puisse se construire à l'intérieur de ça. Et je pense que même pour les enfants plus âgés, il faut un cadre. Ces routines, elles vont être importantes même à l'adolescence car elles lui fournissent une structure, une stabilité qui, eux aussi, va les aider à se sentir en sécurité, à mieux gérer les changements, les transitions. Par exemple, la routine de se lever toujours à la même heure, d'avoir des repas réguliers, de suivre un certain emploi du temps qui soit cohérent. Ça offre un sentiment de prévisibilité et de contrôle. Et c'est aussi l'occasion de leur confier à l'intérieur de cette routine des responsabilités, et ça à tous les âges, afin qu'ils développent leur confiance en eux et leur sens des responsabilités. Donc ça va aussi contribuer à l'adolescence à maintenir leur santé physique et émotionnelle et ainsi à prévenir les problèmes de santé qui sont liés au stress ou à un mode de vie qui soit déséquilibré. C'est le problème qui s'est posé au moment du Covid où tous ces jeunes n'avaient plus de cadre. La pédagogie Montessori à la maison, ça implique aussi un environnement adaptés, qui permettent l'éveil sensoriel et culturel, mais aussi de pouvoir offrir à l'enfant des occasions, des événements avec le même objectif. Par exemple, un enfant qui serait passionné par les dinosaures, eh bien vous cherchez, si pas loin de chez vous, il y a une exposition sur les dinosaures, et à ce moment-là, vous emmenez l'enfant, vous organisez la sortie et on y va ensemble. Je me souviens, quand une de mes filles était adolescente, elle était passionnée de photos, moi pas du tout. Eh bien quand même, je cherchais des grandes expositions photo de Paris, on allait les voir ensemble et c'est aussi merveilleux parce que c'est un moment de partage où vous aussi, vous découvrez quelque chose, mais grâce à votre ado, grâce à votre enfant. Et c'est formidable dans la relation entre l'adulte et l'adolescent, c'est une sensation qui est très importante pour l'adolescent de se rendre compte qu'il peut vous permettre d'apprendre grâce à ses passions. Vous pouvez à la maison aussi observer ce que l'enfant a étudié et puis profiter de cela pour faire une sortie ou alors par exemple s'il a étudié les capacités par exemple ou les mesures, vous pouvez en profiter par exemple pour faire un gâteau. Hein, c'est l'occasion de mettre en pratique. S'il fait des mesures, on peut aller mesurer des arbres, des arbustes, le diamètre d'un arbre, etc. Et ça c'est très important dans l'accompagnement et dans le fait que l'enfant est aussi au centre de vos préoccupations. Donc ensuite, une chose qui est très importante, ça va être le développement des différentes capacités de l'enfant. Donc on va parler des périodes sensibles. L'enfant traverse des périodes sensibles, l'ordre, le langage, les sens, etc. Donc on va accompagner ces périodes sensibles hein, en tant que parent montessorien. Donc la période sensible du langage, c'est entre 0 et 3, 6 ans. Donc on va le faire baigner dans un langage riche, avec un vocabulaire varié. On va lui parler tout le temps, on va lui expliquer ce que l'on voit, etc. L'ordre, on l'a vu dans la routine. Les sens, on en a parlé avec les développements sensoriels de l'enfant, où on va en profiter toujours pour lui faire voir des belles choses, pour lui faire sentir, pour lui faire goûter, pour lui faire toucher. Parce que plus vous allez affiner les sens de l'enfant, mieux cela sera. Et ensuite, on va penser à l'aménagement de la maison par rapport à tous ces grands principes qui nous anime. Donc, comme je vous ai dit, laisser une certaine liberté, mais dans un espace sécurisé. On va développer l'autonomie. Donc, on va agir sur cet environnement. On va choisir un mobilier qui soit complètement adapté à sa taille pour cet environnement qui lui est consacré. Donc, c'est-à-dire qu'on va, choisir une petite table à sa hauteur, une petite chaise à sa hauteur pour qu'il puisse s'installer. On va choisir une petite bibliothèque pour sa chambre où il va pouvoir installer ses livres. Et ça, vous trouvez, il y en a une très belle chez Art Montessori, mais vous pouvez aussi installer des étagères hein, qui soient à son niveau. L'important, c'est qu'il puisse attraper les livres et qu'il les voit la face devant lui afin qu'il puisse justement choisir parmi ses livres. Puis vous aménagez un petit coin avec des coussins, un petit coin confortable. Pas besoin de dépenser beaucoup d'argent, mais lui faire un endroit confortable, calme, apaisé. Dans l'entrée, pour développer cette autonomie, vous allez installer un porte-manteau à sa hauteur. Et de cette façon, il va pouvoir accrocher son manteau, décrocher son manteau, éventuellement une boîte pour mettre ses chaussons quand il s'en va. Et puis, il posera ses chaussures proprement ou alors sur un petit meuble dédié pour cela si vous êtes bricoleur. Ensuite, dans la pièce de vie, tout dépend de l'âge de l'enfant, mais c'est important qu'il ait un petit espace pour lui. Et justement, dans le cadre de ce développement du respect et des limites, c'est important qu'il ait un endroit pour lui qui n'occupe pas tout le salon, tout l'espace, mais un petit espace pour lui. Donc s'il est petit, ça peut être un nid d'eau avec un petit tapis, une petite étagère basse, avec quelques paniers proprement et puis quelques livres. Après, quand il est plus grand, on peut lui réserver une étagère où il va avoir quelques activités et quelques livres qui seront toujours bien rangés, ordonnés, toujours prête à l'usage. Le nid d'eau peut être aussi dans sa chambre avec un tapis, un miroir avec une barre pour qu'il puisse se regarder, pour qu'il puisse ensuite se mettre debout tout seul, pour qu'il puisse voir tout ce qu'il y a autour de lui. Et puis, on peut aménager avec une petite étagère, comme je vous le disais, avec des petits paniers dédiés, c'est-à-dire un petit panier avec des hochets, un petit panier avec des balles, et tout ça accessible pour dès qu'il pourra se déplacer, il pourra les saisir. On peut aussi lui présenter les mobiles Montessori, il y en a 3, que l'on mettra à la hauteur de son torse pour qu'il puisse les attraper, les faire bouger et comprendre énormément de choses importantes comme la relation de cause à effet, comme toucher, des choses comme ça. Et ça, c'est très important aussi pour l'enfant. Ensuite, dans la cuisine, alors ça, c'est des tâches qu'ils adorent dès l'instant où ils tiennent debout, c'est nous accompagner dans les gestes du quotidien. Et il sera très important de leur faire confiance aussi pour ça et de leur montrer qu'ils ont une place importante et qu'ils nous aident vraiment. Pas leur dire « Oh, je fais ça pour que tu joues. Oh là là, ça me prend du temps. Non, tu vas m'aider, c'est super. Tu vas couper le fromage, tu vas laver ses légumes, tu vas faire tourner la salade. » Ça, c'est important qu'il se rende compte qu'il a vraiment une utilité pour vous. Qu'il va passer le café, il peut faire le café tout seul. Vous savez que les machines, là, appuyer sur le bouton. Il peut presser un fruit, faire le jus d'orange. Vraiment lui montrer qu'il a une vraie utilité. Donc pour ça, c'est bien aussi de leur mettre à disposition une chaise à leur hauteur. Vous savez, ça s'appelle une tour d'apprentissage. Art Montessori en vend aussi une très bien faite. Et là, il est à la hauteur du plan de travail et il peut vous aider. Alors bien sûr, encore une fois, on prépare l'environnement pour cette autonomie, une petite planche, des couteaux spéciaux pour l'enfant, vous en trouvez chez Opinel, je crois, qui ne se coupent pas, bien sûr, faites attention, et puis une activité à la fois, ça c'est très important, Maria Montessori insiste là-dessus, l'enfant ne peut affronter qu'une seule difficulté à la fois. Donc quand vous préparez une activité, que ce soit pour vous accompagner dans une tâche ou que ce soit une activité de vie pratique, de vie sensorielle, demandez-vous toujours combien il y a de difficultés. Et il faut qu'il y ait une seule difficulté à la fois. Un exemple, vous préparez un exercice de verser d'eau, mais vous dites qu'est-ce qu'il doit savoir faire d'abord ? Il doit savoir verser. Donc c'est plus facile de verser des produits plus solides. Et il doit savoir presser l'éponge pour pouvoir nettoyer tout ce qui va tomber autour. Voilà. Une seule difficulté à la fois. Pareil pour la cuisine. Il peut nettoyer les légumes, puis un autre jour, il va pouvoir les couper, On peut apprendre à les éplucher, mais on ne va pas faire sur la même activité laver, éplucher, découper. C'est trop. Ça dépend d'âge, hein, bien sûr, mais c'est trop. Dans la cuisine, c'est bien aussi qu'il ait un petit espace dans un tiroir où il peut trouver les ustensiles dont il a besoin. Et puis aussi, peut-être, s'il mange parfois tout seul, qu'il puisse trouver aussi pour mettre la table, pour nettoyer sa table avec l'éponge ou un ramasse-miettes, tout ce dont il aura besoin dans un tiroir bien rangé à sa disposition. Il peut vous aider aussi à charger le lave-vaisselle, il peut vous aider à faire plein de choses des tout petits, passer l'aspirateur, faire le ménage. C'est pour ça que c'est important aussi qu'il ait, par exemple, un ensemble avec le balai, tout ce dont il aura besoin, une petite pelle, un ramasse-miettes, etc., un ramasse-poussière, pour qu'il puisse le faire tout seul. Ensuite, sa chambre. Donc, sa chambre, nous, on préconise bien sûr le lit au sol pour qu'il puisse se lever, se coucher quand il en a besoin. Ça peut être tout à fait un matelas même au début pour que, quand il roule sur lui-même, il se fasse pas mal en tombant et vous mettez un tapis devant. Ensuite, vous pensez, comme je vous disais, à une petite bibliothèque, soit dans sa chambre, soit dans la pièce de vie. Et puis aussi une petite penderie pour qu'il puisse choisir lui-même ses vêtements. Alors, attention, pas trop de choix, parce que s'il y a trop de choix, vous allez vous disputer. Donc, faites un pré-choix pour pas qu'il choisisse des choses que vous ne vouliez pas. Hein, ça, c'est important. Ça fait partie aussi de la préparation de l'environnement. Si on est en hiver, vous ne lui mettez pas les sandales parce qu'il risque de choisir ça. Voilà, et tout à sa disposition. Une étagère avec des activités à sa disposition et pas énormément. Pas trop de choix, encore une fois. Et puis, c'est mieux de faire tourner, de bien ranger. Dans la salle de bain, c'est important aussi qu'il puisse se brosser les dents, se coiffer, se laver les mains tout seul. Donc, soit vous proposez un marchepied, soit il existe aussi des meubles lavabos à la hauteur de l'enfant, pareil, art Montessori en vend très bien. Et là, l'enfant est complètement autonome. Dans le bain, pour qu'il puisse se laver tout seul, je vous conseille les petits contenants pour avion, pour pas qu'il vous vide tout le shampoing et tout le savon liquide dans la baignoire. Mais il peut très tôt se laver tout seul. Ensuite, vous allez créer aussi des activités. Vous savez que pour créer des activités, il vous faut des plateaux et des ustensiles de la vie quotidienne. Des exercices de verser, il vous faudra juste deux contenants, une cuillère, deux contenants, une pince. Vous pouvez faire des exercices avec des pinces à linge. Vous pouvez faire des exercices de soins de l'environnement où il va cirer ses chaussures, où il va laver la glace. Tout ça se fait avec les outils que vous avez à la maison. La seule chose, c'est qu'il faut bien préparer sur un plateau. Donc, je vous proposerai un autre épisode sur la préparation des activités pour les jeunes enfants. Après, pensez pour les plus grands qu'il faut aussi les aider à entrer dans leur autonomie, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport au cartable, par rapport aux devoirs, mais aussi par rapport au planning de la journée. Donc, mettez-leur un semainier pour qu'ils sachent ce qu'ils vont faire chaque jour. Aidez-les à préparer leurs vêtements la veille afin qu'ils puissent s'habiller tout seuls. Et puis après, peu à peu, donnez-leur le plus en plus d'autonomie, aller chercher le pain tout seul, donnez-leur un peu d'argent aussi à gérer, ça c'est important. Maria Montessori, pour les adolescents, elle faisait ce qu'on appelle le Earth Kinder, où elle emmenait les enfants loin de leurs parents et où ils géraient une véritable petite entreprise agricole ou alors un espace comme un gîte où ils recevaient les gens, etc. Donc pensez-y à l'adolescence de leur confier aussi des vraies missions, c'est-à-dire on a envie d'aller, dans une sortie X ou Y, proposer à votre adolescent de tout organiser lui-même. Il organise le trajet, par exemple on va en train au Futuroscope, on lui organise le trajet, il regarde combien ça coûte les entrées, combien de temps il faut rester. Confier des responsabilités même aux plus grands et partager des activités ensemble, des activités qu'ils choisissent. Ça c'est vraiment important et faites-leur confiance, vraiment faites-leur confiance. Donc les activités, ça je vous ai dit, avec l'autocorrection. Il est important aussi de leur donner un lien fort avec la nature, hein, puisque pour qu'ils respectent cette nature et pour qu'ils trouvent leur place dans notre monde et qu'ils apprennent à vivre avec la nature et à la préserver. Donc beaucoup d'expériences liées au vivant, les pousser à observer, ressentir, insister là-dessus. « Oh, regarde, oh, sens !» Multiplier les découvertes. On va dans différents endroits, à côté de chez soi, au square. On observe, on regarde et on se passionne. Et quand on rentre, si on n'a pas trouvé les vocabulaires, eh ben on cherche, on voit ensemble comment on peut trouver, même sur l'ordinateur, dans des livres, on peut trouver du vocabulaire. On crée notre fameuse table de nature. Vraiment, organiser plein de choses avec eux. Pensez aussi à l'éveil culturel et artistique qui va développer la créativité. Donc là, c'est pareil. Pensez à organiser très jeune des activités artistiques et à continuer plus tard. Donc au début, ça va être juste une couleur, un pinceau, de la peinture, de la peinture au petit suisse avec des arômes naturels, de la pâte à modeler qu'ils peuvent manger en leur mettant bien un tablier, etc. Et puis après, plus ils grandissent, plus aller sophistiquer les activités artistiques. Vous pouvez même les inscrire à des activités extrascolaires parce que c'est formidable l'art, hein, formidable. Pensez au musée, mais pareil, quand vous faites un musée, faites le musée pour eux. C'est-à-dire que vous allez faire un musée, vous préparez à l'avance la pièce principale du musée, où on cherche les animaux sur les tableaux. Vous voyez, trouver des objectifs, mais qui soient à leur portée. On fait le musée pour eux. Moi, pendant des années, j'ai fait les musées que pour mes enfants, donc je les ai découverts tout à fait autrement. Et c'était quand même passionnant. Et du coup, maintenant, ils sont grands et ils font tous les musées qu'ils rencontrent. Faites-leur écouter de la musique ensemble. Découvrez des nouveaux genres musicaux, peut-être qui vont leur plaire et que vous ignoriez. Et par contre, faites-leur vraiment partager vos propres goûts musicaux pour qu'ils soient heureux de partager avec vous. Donc voilà, par rapport à Montessori à la maison, je vous assure qu'on peut en faire, mais tellement. Sur la lecture, je vous ai fait un épisode. Vous pouvez aussi leur apprendre à faire les jeux sur les sons. Je vous ai fait un épisode là-dessus. Par rapport aux chiffres, vous pouvez leur apprendre à compter à la maison. Mais dites-vous bien que c'est pas parce que les enfants vont pas dans une école Montessori qu'ils ne peuvent pas bénéficier de la pédagogie Montessori. C'est vraiment penser que tout se passe à l'école. Et moi, je pense que, je devrais pas le dire, mais je pense vraiment que vous pouvez faire énormément à la maison. Et Montessori, vraiment, c'est une philosophie de vie. Et vous devez être un modèle, hein, puisque l'enfant se construit par rapport à vous. Vous devez être un modèle, parce que l'enfant se construit par rapport à vous. Donc c'est une pression que l'on a. Mais quel bonheur de partager tout ça à la maison avec eux et de les voir, ces petits êtres, devenir de plus en plus autonomes, même très jeunes, mais c'est absolument extraordinaire. Et de les voir avec confiance en eux, avoir envie d'apprendre, d'apprendre avec vous, c'est formidable. Voilà, le prochain épisode sera sur la bibliothèque idéale pour l'enfant de 0 à 7-8 ans. Cela fera suite à un interview que Stéphanie a fait le 7 mars de Michel Desmurget qui explique tous les avantages de développer l'amour de la lecture chez les enfants de tous les âges. J'ai adoré cet épisode et j'ai encore eu plus envie que vous développiez le goût de la lecture, le goût de partager des livres avec les enfants. Donc, je travaille sur la bibliothèque idéale pour vous donner des super idées de livres.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclèves.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.